Voilà, je pense que nous allons clôturer la série concernant le paysage chrétien aujourd'hui. Si le Seigneur nous aide, ou bien si c'est sa volonté. Sinon, ça continuera mardi prochain. Mais en réalité, j'ai prévu que mardi prochain, nous puissions faire mardi info. Voilà, nous allons parler de quatre catégories de chrétiens charnels qu'on peut retrouver encore dans le paysage chrétien. Les chrétiens qui sont liés au sens, aux émotions. Les chrétiens liés au sens, aux émotions. Qui marche en fonction de ce qui impressionne, ce qui crée la joie ou la tristesse. C'est ça les émotions, hein? Les sensations de joie, de tristesse, de force aussi. On peut se sentir fort dans ces chrétiens qui marchent en fonction de ces sensations-là et pour juger les choses. Et c'est aussi ça qui tue. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. L'apôtre Paul dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue, c'est symbole de tout ce qui est organe de sens. Donc l'homme a tendance à se confier à ses émotions, à ses yeux, pour juger des choses et pour prendre des décisions. Et nous allons rencontrer des gens qui vont être impressionnés par leurs yeux, impressionnés par les sensations. C'est des chrétiens émotionnels, entre guillemets, et c'est une réalité. Des gens qui ne vont pas suivre, parce que la Bible nous appelle à vivre par la foi et à vivre par la parole de Dieu, et non pas par rapport aux sensations, par rapport aux émotions. Parce qu'on peut se retrouver dans une réunion où on a des émotions de chaleur, des sensations de chaleur, une émotion de simplicité, même parfois d'innocence. Mais ce ne sont pas ces choses qui déterminent la vérité ou la volonté de Dieu. Donc il faut qu'on apprenne à marcher selon ce qui est écrit. Et on peut aussi même expérimenter des manifestations surnaturelles. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui doivent nous conduire. C'est pourquoi même le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, au verset 15, Matthieu 7, au verset 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Ils sont... ils mettent des vêtements de brebis. Il ne s'agit pas de vêtements physiques, il ne s'agit pas de vêtements, de manteaux, non. Il s'agit d'une apparence extérieure. Voilà, il ne s'agit pas de vêtements comme tels, il s'agit d'une apparence extérieure, des façons de faire, des façons de parler, même parfois aussi. la tenue vestimentaire carrément, qui donne l'impression que c'est des faux prophètes, des vrais prophètes, passent pour les personnes qui regardent aux sensations, aux émotions, à la vue. Donc, ils peuvent peut-être parler avec sévérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle avec sévérité, comme ayant une grande autorité, que forcément il est dans la vérité. Donc on peut être touché on peut vibrer quand quelqu'un parle, mais ce n'est pas forcément ça qui garantit que tout ce que fait la personne est vrai ou ce que dit la personne est vrai. Le Seigneur dit s'il y a la peau des brebis qui existe. Donc un ensemble d'apparences, un ensemble d'actes, un ensemble de façons de faire qui donne l'impression que c'est Dieu qui agit, mais en réalité ce n'est pas Dieu. Comment savoir ça? Le Seigneur nous dit, vous reconnaîtrez ça au fruit. La suite montrera qui est vraiment la personne et aussi la comparaison avec les Écritures. Quelqu'un peut très bien parler, comme une fois, je suivais une émission où il y avait un faux serviteur qui était considéré comme vrai serviteur par beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui, qui interviewait un autre qui donnait de très belles réponses par rapport à la parole. Mais comme dans leur émission, ils ont parfois des moments de pause. À la pause, le serviteur qui jouait le rôle de journaliste, il sort une chaîne avec un médaillon. Et ce médaillon, c'était une sorte de petit ange, un angelot, qui était vendu à un prix. Et il expliquait, c'est en fonction du psaume 91, il enverra un ange pour te tenir afin que tes pieds ne heurtent pas le sol. Donc, il vendait cette chaîne comme une sorte de protection. Donc, la personne qui allait mettre cette chaîne-là allait croire que l'ange, le petit ange-là, est comme son protecteur. Parce qu'il utilise même un verset biblique. Tout était fait de sorte que celui qui avait été émotionné par les explications qui étaient belles du deuxième homme de Dieu n'allait pas avoir suffisamment de vigilance pour réaliser qu'en ce moment-là, où il vendait la chaîne, il manifestait ainsi ce que le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, c'était un fruit négatif qui était là. Il vend une chaîne comme une sorte de protection en utilisant un verset biblique. Donc ça devait interpeller les vrais chrétiens pour dire, mais là, le Seigneur m'avait averti, on les reconnaîtra à leurs fruits. Je suis en face d'un fruit négatif. Je suis en face d'un fruit mauvais. Donc ces deux serviteurs-là sont flous. Parce que en dehors de ce fruit-là qui s'est manifesté par la vente de cette chaîne, bien aimé, si vous suiviez cette émission, vous allez dire, ces deux personnes-là aiment le Seigneur. Ces deux personnes-là connaissent la parole. Mais ce fruit-là était là pour nous dire, c'est faux, c'est des loups habillés en peau de brebis. C'est une réalité, mais lorsqu'on est un chrétien dans l'émotion, vivant par la vue en quelque sorte, ben on ne peut pas discerner ces choses-là. Et parfois, je vois des vrais chrétiens, au lieu de comprendre qu'au milieu de nous, il va y en avoir des chrétiens émotionnels, ils se fâchent carrément quand ils voient d'autres chrétiens se faire berner. Je ne dis pas qu'on doit rester pareil. On peut être choqué. Étonné, mais de là à nous-mêmes pécher en commençant à se fâcher et à critiquer, voulant par la chair démontrer que celui-là est un faux serviteur, ce n'est pas la procédure. n'est pas la bonne procédure. Le Seigneur est tout puissant pour dévoiler. Je ne dis pas que nous, on ne doit pas dévoiler. Mais on doit dévoiler, pas parce qu'on est en colère. On doit dévoiler, pas parce que on est tellement déçu de ce qu'on voit, qu'on commence par exaspération, tu es fatigué de tout ce que tu vois et tu commences à parler. Non, nous, on doit parler parce que le Saint-Esprit nous y pousse par rapport au moment. Mais par rapport à la vérité, à chaque fois que quelqu'un nous pose la question, nous devons dire la vérité. Mais cependant, entrer dans une dénonciation doit se faire par la conduite du Saint-Esprit, si c'est de notre propre initiative. Mais si c'est les gens qui nous provoquent, qui commencent, là c'est autre chose. Mais si ça doit venir de nous, ça doit venir par le Saint-Esprit. Mais certains chrétiens sont tellement en colère, sont tellement déçus, dérangés de voir que autour d'eux il y a des gens qui suivent un faux serviteur par émotion, par sensation. Ça les amène à commencer eux-mêmes aussi à entrer dans la haine, dans la colère et à ne plus se gérer dans la maîtrise de soi qui est le fruit de l'esprit aussi. Donc il faut qu'on comprenne que dans notre paysage, on en rencontrera ce genre de chrétiens qui sont dans l'émotion. Voilà, on en rencontrera et prions pour que Dieu leur parle. Et surtout, prions pour qu'ils cherchent le Seigneur dans la vérité. Et c'est ça le plus important. Oui.
Moi, je voulais intervenir sur quand on juge un faux serviteur. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un juste pour un seul fait ? J'arrive quelque part, je vois, c'est ce que tu viens de dire, ils vendent des médaillons. Je sais que ça, c'est très flagrant, mais il peut y avoir un petit truc, on ne peut pas juger quelqu'un sur un seul fait.
Quand le fait est grave, oui. Par exemple, voilà, on te dit que la seule information que tu as, c'est que le serviteur là a trois femmes. Bon, c'est un fait, mais c'est un fait grave. Donc, on déclasse la personne. Mais quand ce n'est pas un fait grave, là, on doit être prudent.
Parce que j'ai déjà discuté avec certains frères. Il est parti dans une assemblée quelque part, juste peut-être pour une prédication. Le jour qu'il est arrivé, il juge que le prédicateur, c'est un faux.
Oui, mais tout peut-être dépend de ce qu'il a dit. Voilà, par exemple, là, quelqu'un qui vend une chaîne avec un ange et il utilise le psaume 91, il veut insinuer par là que l'ange là, c'est l'ange du psaume 91 qui va te protéger si tu tombes. Donc c'est comme un talisman qu'il vend. Donc pour moi, j'estime que c'est suffisant pour décréter que ce sont des loups en peau de brebis. C'est suffisant. Et quand j'ai entendu quelqu'un dire... maintenant, quand on dit des loups en peau de brebis, ça ne veut pas dire forcément que c'est des satanistes, qu'ils ont fait des contrats avec Satan. Mais un homme charnel peut devenir aussi un loup. Ce n'est pas seulement les gens qui vont faire des contrats avec Satan directement. Quelqu'un qui aime l'argent, à force, il peut devenir un loup. Comme j'ai entendu un chanteur congolais qui disait, on lui dit, mais... le concert, vous avez fait payer, c'était à Pointe-Noire, vous avez fait payer 10 000 francs, c'est-à-dire 15 euros. Le journaliste veut lui faire comprendre, c'est quand même cher pour les gens. Et le monsieur dit, mais moi j'ai une maîtrise en économie, je n'ai pas vu le lien, mais bon, écoutons quand même. J'ai une maîtrise, ça, c'est le chanteur chrétien là qui dit, j'ai une maîtrise en économie. Vous savez pourquoi l'Afrique est toujours pauvre ? C'est parce qu'on veut toujours les choses gratuites. Bon, je me suis dit, mais où est le lien avec son concert gratuit et la pauvreté de l'Afrique ? Le journaliste a dit, ah bon ? Oui, oui. On veut tout le temps que l'Europe nous donne des choses gratuites, c'est pourquoi il y a la pauvreté. Il faut que nous-mêmes, on travaille notre économie. Mais où est le lien avec le fait de vendre, de faire payer un concert chrétien ? Et vous savez qu'est-ce qu'il a fini par dire ? Il a dit, les gens qui parlent de la gratuité, c'est des messages qui viennent directement de Satan. Alors donc, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, ça y est, le monsieur, il est passé, il a traversé la rivière, voilà, il a traversé le fleuve, il est de l'autre côté maintenant. C'est clair, voilà. Donc, encore, que tu cherches à t'excuser en disant, bon, bien-aimé, il y a des dépenses, tout ça. Voilà. Mais là, quand tu commences même à attaquer la vérité en disant que ça vient de Satan, alors que c'est le Seigneur lui-même qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, tu commences à attaquer la vérité, à dire que ça vient de Satan. Là, c'est clair. Tu as changé de camp. Ce n'est pas comme si c'était limité à dire, comprenez qu'on a des dépenses, on a loué des salles, on doit faire fonctionner, voilà, notre orchestre. Bon, là, on allait dire, il a un problème de foi. Voilà. Mais là, ce n'est plus un problème de foi, parce qu'il attaque même la vérité en déclarant la vérité venant de Satan. Là, c'est autre chose. Ça veut dire que la personne est devenue un loup. Voilà. Et donc, c'est une réalité. Mais il y aura toujours des chrétiens dans l'émotion qui vont les suivre. Moi, j'ai déjà participé à des réunions écuméniques, hein, quand j'étais encore chrétien modéré. Donc, j'ai participé à des réunions écuméniques. Mais tu sens aussi la chaleur, bien-aimé, tu sens. Les gens sont gentils. Tu sens une certaine présence. Les gens pensent que tu vas aller dans une réunion. C'est parce que vous avez l'enseignement, c'est pourquoi vous êtes directement choqués quand vous êtes dans ces réunions de ce genre-là. Mais nous, on a été là-bas, dans ces réunions-là, sans enseignement. Mais on sait qu'on se sentait bien, ne vous en faites pas. Vous allez voir le prêtre catholique toujours souriant. Il a aussi des paroles de connaissance. Il y a quelqu'un qui a l'oreille, qui avait un problème. Dieu le guérit. Ça, c'est le prêtre. Hein? Nous tous, on était là, mais vraiment, Dieu agit à travers... aujourd'hui, avant, on appelait le quelque chose Michel, mais aujourd'hui, j'ai dit à travers Michel. Voilà. Mais tu sens la présence. À un moment donné, tous, nous, on a parlé en langue, donc à un moment donné... Tout le monde chante, ah, la, la, li, la, la, la. Toi aussi tu chantes, tu es entraîné, mais ce n'était pas de Dieu. Donc c'est des émotions, c'est des sensations, c'est une réalité. Et beaucoup, à cause de ça, pensent qu'ils sont quand même dans la vérité, parce que pour eux, Dieu agit. J'ai senti la présence de Dieu, disent ces gens-là. J'ai senti la... Mais non, c'est la vérité qui compte, c'est la parole qui compte. Ce n'est pas les sensations, ce n'est pas les émotions. Quelqu'un peut prêcher et il pleure, mais c'est un escroc. Justement, parce que pour vous attraper, il pleure. Et surtout les femmes, quand quelqu'un pleure, c'est fini. Donc c'est quelqu'un qui dit la vérité. Donc c'est des techniques. C'est des techniques, donc il faut suivre ce qui est dit. Voilà, quelqu'un il peut pleurer, nous on est là, on va nous traiter de méchants, mais on ne va pas pleurer avec lui, on écoute d'abord ce qu'il dit. Oui, oui.
Oui, pasteur, je voudrais revenir à ce que vous avez dit par rapport aux femmes qui sont dans l'émotion. C'est vrai qu'on le remarque beaucoup, pourquoi les femmes sont plus émotives ? Les hommes, on va dire, ils ont un cœur de pierre, ils ne sont pas sensibles. Ou... C'est vrai que comparé à nous les femmes, des fois on dirait qu'il y a un monde. Quoi. Mais d'où ça vient ? Pourquoi est-ce que la femme est beaucoup plus sensible à ça que l'homme ?
Oui, mais parce qu'on n'est pas créé de la même manière. On est complémentaires. Hein. Donc la femme est dans la vie. Voilà, tout ce qui fait la vie, le mouvement. Et l'homme est plus dans la direction, quoi. C'est ça. Hein. Mais chacun a ses défauts. Mais est-il que, en général, ces gens-là, ben, leurs victimes, c'est les femmes. Parce qu'ils vont pleurer. Voilà, ils vont faire des choses qui créent des émotions. Et si nous suivons ces émotions-là, ces sensations, on va se faire avoir. On va se faire avoir. Et ces sensations, on les retrouve partout, même auprès des gens qui directement sont dans l'erreur. Qui, clairement, des gens comme... Moi, j'ai déjà entendu... je suis plutôt en train de lire, mais j'ai arrêté, ça fait un moment, je vais recommencer. Le livre d'un bouddhiste qui s'est converti. C'est un Hollandais qui était bouddhiste qui s'est converti. Il expliquait comment il est entré dans le bouddhisme. Une fois, par curiosité comme ça, il était dans une réunion du Dalai Lama et qui donne des conseils de sagesse. Vous savez, les réunions comme à Bercy, où il remplit Bercy. Il y a des gens, à un moment donné, les gens posent aussi des questions. Et il y a quelqu'un qui a posé une question pour dire, mais j'ai essayé, mais ce problème-là ne me quitte toujours pas. Et le Dalai Lama qui a dit, essaye encore. Et il a dit ça avec tellement de chaleur que les gens ont applaudi. Lui aussi, il a été touché. Et c'est comme ça qu'il est petit à petit devenu bouddhiste. C'est pour dire, bien-aimé, que être touché, c'est, on peut être touché partout. Même dans le faux direct. Voilà. Mais ce n'est pas les sensations qui comptent, c'est la Bible qui compte. C'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. Il y a une autre encore qui s'appelle Ama, une indienne. Quand elle t'étreint dans ses bras, tu sens l'amour de Dieu, entre guillemets. Et tu commences à pleurer. Elle a fait aussi du succès à Paris, à Bercy, je crois. Et moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui a déjà touché Ama. Elle dit, effectivement, dès qu'elle te serre dans ses bras, tu sens comme un amour. Et tu pleures d'amour. Mais c'est satanique. Donc, ce n'est pas... Si tu suis ces sensations-là, tu vas aller dans plusieurs endroits. Parce que Ama va te faire pleurer, Dalai Lama va te faire chauffer... Voilà, un prêtre, un tel va te faire... Donc tu vas voyager à gauche, à droite. Non, vous savez, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 16, j'aime beaucoup ce verset-là, « Si nous avons connu quelqu'un selon la chair, nous ne voulons plus. » 2 Corinthiens 5, 16. Même le Seigneur Jésus, nous ne le connaissons pas par émotion. Voilà. Nous le connaissons par rapport à la vérité. Donc, on a lu les Écritures, on a comparé, on a compris qu'il est le Messie de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a vu un miracle, ce n'est pas parce qu'on a pleuré un jour en entendant son nom. Parce qu'on peut pleurer aussi pour autre chose. Voilà. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Jésus selon Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Ah, si c'était bon, parce que c'est quand même notre frère juif. Non, là c'est fini ces histoires de frères juifs. C'est fini de fils de ma tante Marie ou quoi que ce soit. C'est le Fils de Dieu. Il l'a démontré. Sa parole de Dieu le montre que c'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi je crois en lui. Je ne crois pas parce que j'ai été... Et ému, j'ai été touché, j'ai senti que... Non, je crois parce que c'est clair qu'il est le Fils de Dieu, la parole de Dieu le montre clairement. Et beaucoup se sont fait avoir par les émotions. Dans les émotions, il y a tout, les sensations, il y a tout, il y a les miracles aussi. Parce que les miracles font vibrer les yeux, font vibrer aussi le cœur. Voilà. Il y a des gens qui ont fait, des visions, et ces visions-là se sont accomplies, et ils ont accepté donc tous les éléments qu'il y avait dans ces visions-là, fussent-ils faux. Il y a des éléments, tu as une vision et la chose s'accomplit, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon. Mais toi, puisque la vision s'est accomplie, tu considères que tout est bon. Non, on a l'exemple dans Deutéronome 13. Le Seigneur dit quoi dans Deutéronome 13? Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Que dit ce passage? Si un homme vient, il prophétise des choses, il fait des miracles, les choses s'accomplissent. Mais après, d'une certaine manière, cette personne vous amène à la déviation. Ne le suivez pas. Mais vous allez vous poser la question, vous dire, mais Comment alors il a fait tous ces prodiges-là? Ben, la réponse est là. C'est votre Dieu qui vous met à l'épreuve, verset 3, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est le Seigneur qui permet que cet homme-là fasse des choses qui s'accomplissent, afin de voir, quand il va vous demander de sortir de la voie du Seigneur, est-ce que vous allez suivre? Est-ce que vous êtes prêt à aimer Dieu plus que les miracles qui vous ont impressionné? Est-ce que vous êtes prêt à suivre Dieu plus que les sensations qui vous ont, qui se sont manifestées en vous? Voilà la volonté de Dieu. Il a permis ça pour voir si réellement vous vous attachez à lui plus qu'aux sensations, plus qu'aux émotions. Sachant qu'il est écrit dans Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On connaît beaucoup de chrétiens ici. Ils ont des problèmes. Et c'est son pasteur d'Afrique qui va l'appeler. Ah, ma sœur, pendant la prière ici, on a vu que tu avais beaucoup de problèmes. J'ai dit ma sœur parce qu'en général, c'est dans ce côté-là. On a vu que tu avais beaucoup de problèmes. Donc là, il faut vraiment qu'on multiplie les prières. C'est comme si la multiplication des prières, c'est ça qui résolvait le problème. Or, c'est Dieu qui résout. On n'est pas contre les prières, au contraire. Mais nous prions pour que Dieu agisse et non pas ce sont nos prières qui vont... On fait qu'on multiplie les prières, mais bon, on a besoin de rompre les jeûnes avec quelque chose et on a besoin aussi d'acheter de l'huile et les œufs pour prier. Mais je vous parle des chrétiens que je connais qui m'ont dit ça. Leur problème, c'est quoi? Ils se disent, oh, comment eux, en Afrique, ils savent que j'ai des problèmes? C'est que c'est Dieu qui leur a montré. Donc, maintenant, quand on lui demande le Western Union, parce que ça finit toujours par le Western Union, quand on demande le Western Union pour acheter les œufs et l'huile, la personne ne se rend pas compte que c'est satanique les œufs et l'huile pour prier. Son problème à lui, mais comment ils ont su que moi j'avais des problèmes? S'ils ont su que j'avais des problèmes, forcément c'est Dieu qui leur a montré. Donc, à partir de là, donc quoi qu'on te demande, tu acceptes. C'est comme ça que beaucoup sont piégés. On t'appelle. Dans les prières ici, on a vu. Ça, c'est la voyance, c'est la magie. Dieu est tout puissant, même si quelqu'un n'a pas vu. Nous-mêmes, moi-même, je suis dans le problème. Je n'ai qu'à aller dire aux frères, comme on s'envoie les textos, prier pour telle chose. Pourquoi on veut seulement être impressionné par quelqu'un qui va voir ça? La parole nous demande de prier les uns pour les autres. Est-ce que c'est compliqué? J'ai un problème, je vais voir un frère, qu'on l'appelle pasteur, qu'on l'appelle apôtre, je ne sais pas quoi. C'est un frère ou une sœur, je vais les voir pour dire, j'ai tel problème, prions. Le Seigneur nous a promis dans Marc 11, 24, tout ce que nous demandons en prière, croyons que nous l'avons obtenu, nous le verrons s'accomplir. Pourquoi vouloir à tout prix que quelqu'un voit ça à l'avance, pour croire vraiment que c'est là que Dieu va agir? Non, ce n'est pas dans la parole. Restons simples. Ne nous laissons pas voir par tout ce qui est extraordinaire, sensation. C'est la parole qui doit nous conduire. C'est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Oui.
Oui, c'est bien le verset de Deutéronome. J'ai montré à ma cousine. Mais on sait que Dieu est bon, mais c'est compliqué quand même dans le sens où, parce que j'ai une cousine qui a souffert longtemps d'une maladie. Elle avait des boutons sur tous les corps. Et pendant longtemps, et en plus, elle était en train de faire les démarches pour aller au Canada. Et elle a tourné avec sa maladie et elle est partie à... il y avait une assemblée c'était une réunion de catholique écuménisme, je sais pas comment on appelle, charismatique, je sais pas, là où ils prophétisent là.
Donc, oui, le renouveau voilà. Charismatique.
Voilà, donc elle est partie là-bas, c'est là-bas qu'ils ont prophétisé que sa maladie venait, je sais pas, de quelqu'un, ils ont cité le nom, et elle a commencé à être guérie. Et du coup, elle est partie faire les démarches parce qu'elle devait faire des examens pour, et ils n'ont rien trouvé finalement, parce qu'ils avaient trouvé quelque chose, elle n'allait plus partir avoir le visa. Et du coup, Voilà, et donc elle me racontait, elle a fait ses démarches, elle est au Canada, et elle n'a plus ces problèmes-là, et elle me racontait, voilà, c'est là-bas quoi, que j'ai tourné longtemps, et c'est là-bas qu'on m'a prophétisé. Et chez elle, elle m'envoie une photo, tu vois les grands les tableaux de Marie, tout. Donc maintenant, elle est à fond dans ça, quoi, parce que c'est là-bas qu'elle a trouvé.
C'est les sensations, voilà.
Mais une personne comme ça, bon, c'est vrai que je vais lui montrer ce verset-là.
Ah, il faut montrer la parole. Il faut lui dire, d'accord, peut-être tu as été guéri, parce que, voilà, il faut encore attendre, on ne sait jamais. Peut-être que tu as été guéri, mais ça ne change pas le fait que c'est un mauvais endroit. Ce n'est pas, le catholicisme n'obéit pas à la parole de Dieu. Voilà. Donc ça ne change pas cela. La vérité restera la vérité. Et nous venons de lire Matthieu 24, 24, qui nous dit clairement que même Satan va faire des miracles. Donc que ça ne nous surprenne pas. Donc ces gens-là qui veulent utiliser les miracles pour justifier que quelque chose est de Dieu, n'ont pas raison, puisque c'est écrit que même Satan va faire des miracles. Et Deutéronome 13 nous donne le cas où même quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui dit, c'est moi qui ai permis que cet homme-là fasse cet exploit-là, pour voir si vous êtes vraiment attaché à moi. Voilà. Oui.
Et les serviteurs qui vendent de l'huile d'onction, c'est
des loups. Voilà. Ceux qui vendent de l'huile, d'onction, tout ça, c'est de la magie, c'est des loups.
Et s'ils donnaient gratuitement alors?
Ça reste toujours des loups, parce que on nous a demandé de prier au nom de Jésus pour que les gens soient guéris. Ce n'est pas en distribuant de l'huile comme une sorte de fétiche. Non, c'est le nom de Jésus qui guérit.
Amen.
Voilà. Ok, nous parlons maintenant de chrétiens indifférents. Nous lisons dans Matthieu 11. Les indifférents. Matthieu 11, au verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elle ne s'était pas repentie. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Jésus est en train de dénoncer l'indifférence qu'il a rencontrée à Bethsaïda, à Chorazin et à Capernaum. Entre parenthèses, j'ai visité Bethsaïda tel que c'était, c'est l'endroit où Bethsaïda a été. J'ai visité aussi Capernaum. La prophétie du Seigneur s'est accomplie. C'est des villes que les Juifs ne touchent pas. C'est resté mort. Tel que le Seigneur a dit, ça plongera jusqu'au séjour des morts. Capernaum, jusqu'aujourd'hui, ressemble comme à un cimetière. Il n'y a rien. Alors que les Juifs ont rebâti toutes les autres villes de la Bible. Mais cette ville-là, Capernaum, Bethsaïda, c'est resté des champs morts comme ça. Il n'y a rien. C'est des vestiges. Voilà. Quand même on le voit avec les yeux, ça ressemble à la mort. C'est ça. C'est, la prophétie s'est accomplie. Mais le Seigneur dénonce l'indifférence. Il y a des gens qui ne sont pas toujours touchés par le Seigneur, quoi qu'ils entendent, quoi qu'ils expérimentent. Ils vont entendre toutes les belles prédications. Ils vont expérimenter des grandes choses, des actions du Seigneur. Ils sont là dans les milieux chrétiens, mais quand on les approche, on a l'impression que le Seigneur ne les a pas vraiment ébranlés, quoi. Vous savez, quelqu'un qui suit le Seigneur en vérité, quand vous l'approchez et que vous êtes au courant de son passé, vous allez voir vraiment la différence. Vous allez avoir l'impression qu'il est bête, quoi. Il y a eu quelque chose qui a bougé son cerveau, il est devenu bête. Non, c'est la transformation du Seigneur. Le Seigneur transforme vraiment les gens et on ne les reconnaît plus. On va voir quelqu'un qui était escroc, léger, devenir hyper sérieux. Je dis, mais les gens qui le connaissaient vont dire, mais c'est pas possible. Il n'est plus la même personne. On va voir quelqu'un qui était sévère, dur, devenir doux comme un agneau. Et puis les gens disent, mais il est devenu bête. Non, c'est la transformation du Seigneur. C'est des gens qui ont été touchés par le Seigneur. Mais il y a des gens qui participent à l'action du Seigneur, qui sont là, comme Bethsaïda, Capernaum. Vous savez, combien de miracles Jésus a fait à Capernaum? On se souvient de l'histoire du paralytique, hein, les gens qui ont creusé le toit. Mais c'était à Capernaum. Le centenier, c'était à Capernaum. Là où Jésus a dit, celui qui a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mais c'était à Capernaum. Donc, Jésus a fait beaucoup de choses à Capernaum. Mais il y a des spectateurs, des gens qui sont dans le milieu chrétien, qui participent aux prédications, qui entendent, qui vivent des grandes choses. Mais quand on est proche d'eux, on a l'impression qu'ils n'ont pas changé par rapport au monde tel qu'on les connaissait avant, ou bien tel que quand on les connaissait, parce que certains d'entre nous, nous nous sommes connus, déjà on est chrétiens, mais tel qu'on les connaissait chrétiens, immatures, nouveaux chrétiens, il n'y a pas vraiment grand changement. Qu'est-ce qui explique que parfois, il y a des chrétiens qui se convertissent ensemble. 10 ans après, il y a un qui sert Dieu vraiment à 100%. L'autre, quand tu le rencontres, tu as l'impression que tu viens de rencontrer un nouveau converti toujours. C'est à cause de l'indifférence. Il y a des gens qui ne sont plus touchés. Ils sont dans le milieu chrétien, ils sont là. Et l'action du Saint-Esprit n'a plus vraiment des faits bouleversants dans leur vie. C'est vraiment... Ça fait mal, mais ça existe. Et souvent, les gens se plaignent, on ne comprend pas. Une telle personne aurait dû être à tel niveau. Mais là, nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a un parfait. Non, il n'y a personne qui ne soit dans la perfection, mais... On peut voir le bouleversement, voilà. On peut sentir qu'il y a eu bouleversement. On dit que non, là, ce n'est pas la même personne. Mais quand on dit, mais on le connaît, il est toujours comme ça. Ah là, il y a un souci. Il y a un souci. On n'est pas en train de dire qu'il y a des chrétiens parfaits qui ne font plus aucun péché, mais on dit tout simplement qu'on peut voir le bouleversement. On peut voir que... dans cette situation, la même personne autrefois allait se comporter de telle manière. Mais je ne vous donne pas des exemples de cas difficiles, hein. Des cas exceptionnels. Moi, je parle de la vie de tous les jours. On va voir que la personne dans la vie de tous les jours est pratiquement le même homme, à la différence que, bon, il connaît le Seigneur. Il sait à peu près que faire telle chose, c'est mauvais, quoi. Mais il n'y a pas... Voilà, ce n'est pas un autre homme. Et c'est de l'indifférence. C'est pourtant des gens qui expérimentent la gloire de Dieu d'une certaine manière, mais qui demeurent dans leur cœur, dans une sorte d'indifférence. Peut-être qu'ils attendent plus, mais même si on leur donne plus, ils vont réclamer encore plus. Voilà, moi, j'appelle ça de l'indifférence. Il faut faire attention, bien-aimé, à devenir indifférent. Tout le monde peut devenir indifférent. Tout le monde peut devenir indifférent. Venir à l'église comme une sorte de fonction publique, venir signer sa présence. Tout le monde peut tomber dans ça. Le pasteur peut tomber dans ça. Commencer à prêcher comme si c'était un exercice d'école ou d'université. Tout le monde peut tomber dans ça. Nous devons à chaque fois... dans toutes les œuvres du Seigneur, dans toutes les actions du Seigneur, nous considérer petits, ayant soif de l'entendre, ayant soif de le voir. Vous savez, tu peux commencer à prier machinalement, parce qu'on connaît les mots, on connaît les paroles, on te cite un problème, tu pries machinalement. Tu as perdu la notion de la grandeur de Dieu, c'est-à-dire que Parler à Dieu pour toi est devenu normal. Or, c'est une grâce de parler à Dieu parce qu'on n'avait pas le droit de lui parler. Il n'y avait qu'une seule personne qui entrait dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur. Et avec des risques et périls, on lui attachait des clochettes au cas où il serait foudroyé par la puissance de Dieu s'il avait un péché. Une seule personne entrait là-bas, dans le lieu qui symbolise la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ, en étant crucifié à la croix, il a déchiré le rideau et il nous a ouvert le passage. Donc à chaque fois qu'un chrétien prie, il doit réaliser cette grâce-là. Mais quand ça devient quelque chose de normal, on va à l'église, on n'est plus touché. C'est de l'indifférence. Et ça finira mal. On doit à chaque fois réaliser, ah vraiment, le Seigneur m'a donné la respiration, merci Seigneur. Ah, je connais, j'aime un chant qui dit, nous sommes devenus, mais c'est pourtant une phrase qu'on connaît, mais quand j'écoute ce chant qui dit, à cause de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous vous imaginez enfants de Dieu. Mais après, à un moment donné, ça ne te fait plus ni chaud ni froid. On dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Toi, tu penses à ta maison qui doit être payée. Tu penses à ta voiture, il manque de l'essence. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu penses à ton mari qui est venu en retard. Tu n'es plus touché. Tu n'es plus touché. C'est de l'indifférence. Et ça peut nous attraper tous. Chaque jour, nous devons être touchés. Touché. J'aime le psaume 118 qui dit, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Psaume 118. Et après le verset qui suit, attachez l'animal. On amène l'animal au sacrifice pour l'Éternel. Parce qu'ils connaissent que ça, c'est la journée que le Seigneur a faite. Donc demain sera la journée que le Seigneur a faite. Ça sera pour moi un sujet de joie. Chaque jour, tu es étonné de la grâce de Dieu. L'indifférence est dangereuse. Ou tu commences à trouver normal, oh, moi, je suis vieux chrétien, je connais. C'est fini. Indifférence. C'est l'indifférence. C'est la journée que le Seigneur a faite. Attacher l'animal. Lisez le psaume 118. Les gens disent, oh, mais pourquoi ils disent attacher l'animal? Mais on va aller sacrifier l'animal pour le Seigneur. Il a fait de belles choses, encore demain il va en faire. C'est la journée qu'il a faite. Il faut penser à tout ça, bien-aimé, sinon on tombe dans l'indifférence. Et beaucoup sont tombés dans l'indifférence. C'est devenu pour eux normal de prier, normal d'écouter la parole. Or, chaque fois qu'on écoute cette parole, vous savez, il y a des chrétiens chinois avec une seule Bible pour plusieurs chrétiens. Alors, ils ont coupé la Bible en plusieurs parties. Chacun garde sa partie. Et quand ils se rencontrent, chacun récite sa partie. Donc, bien aimé, pour ces gens-là, on a vu les chrétiens qui miaulent de la tribu. Lorsque la Bible venait pour la première fois en leur langue, ils se sont réunis tous dans le centre du village en train de pleurer. C'est comme s'ils voyaient le Fils de Dieu avec leurs yeux, bien aimé. Ça, nous avons perdu tout ça parce que tout est facile, on est là. Non, ça c'est de l'indifférence. Il faut que ça change, il faut que... Voilà, chaque jour, nous apprécions la grâce divine. Oui.
Tu penses que quelqu'un qui est dans l'indifférence, il va se rendre compte de temps en temps, et ben voilà, ou c'est inconscient, c'est voilà, comme tu dis, on est tombé dans les habitudes et on ne se rend plus compte. Ou ça peut être conscient.
Ah si, le Saint-Esprit nous fait rendre compte. Hein. Mais on a le très bon exemple, c'est l'église d'Éphèse, hein, de... Apocalypse chapitre 2, lorsqu'on cite les exploits de cette église-là, on n'a rien à lui reprocher, cette église, dans son travail, dans sa persévérance, voilà, dans la vérité. Rien à reprocher, mais le Seigneur a dit, c'est que j'ai contre toi, tu es devenu indifférent, tu as perdu le premier amour. Tu fais les choses comme si c'était normal, c'était, voilà, il n'y a pas, tu n'apprécies pas, tu n'es pas, quand on dit que tu as perdu le premier amour, c'était quoi? Quand tu t'es converti, tout ce qui était de Dieu était beau et grand, extraordinaire. Mais là, ce n'est plus le cas. Mais tu fais très bien les choses. L'église d'Éphèse faisait très bien les choses. Mais elle avait perdu le goût Elle avait perdu l'amour, le premier amour. C'est une réalité. Et comme je l'ai dit, ça peut toucher tout le monde. Tout le monde a sa fonction, ça peut le toucher. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Ce que Dieu fait, c'est toujours grand. Même si à nos yeux, bien aimé, quand je mange un bon fruit, j'ai dit, dernièrement j'ai mangé des fraises, des grosses fraises, j'ai dit non, 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 le Seigneur, c'est le meilleur cuisinier au monde. Donc tu réalises que là, qui peut préparer comme ça? Qui peut préparer comme ça? Et quand on pense que ça vient du sol, là où il y a la saleté, et ça produit une fraise, ça produit une belle mangue. Et mais non, il est fort. Bien aimé, essayez-vous dans votre maison, vous prenez une marmite, vous mettez un peu de sable, un peu de reste de votre poubelle, et produisez un bon repas avec ça. Mais le Seigneur, lui, il arrive à produire les fruits dans un sol sale, où tu viens, tu craches, tu fais n'importe quoi, mais le lendemain, tu retrouves un bon fruit. Ah! Mais quand on pense à tout ça, on se dit, mais non. Chaque, je sais pourquoi c'est écrit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Stop avec lui-même, il est en colère dans le psaume 46, il dit arrêtez, verset 10 à 11, sachez que je suis Dieu. Arrêtez avec l'indifférence. Je suis Dieu. Donc chaque chrétien est amené à se laisser transformer chaque jour. Ce n'est pas qu'une histoire de Chorazine, de Bethsaïde, de Capernaum. C'est l'histoire de tout humain. De tout humain. On doit prendre le Seigneur au sérieux, prendre la prédication au sérieux, prendre la prière au sérieux. On doit prendre tout ça au sérieux. Nous continuons.
J'avais une deuxième question.
Oui, oui.
Quand on commence à prendre les prédications pour les autres, c'est l'indifférence qui commence.
C'est l'indifférence qui commence. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un manger, en train de manger en disant « ça sera bien pour l'autre ». Donc quand tu manges, c'est bien pour ton ventre en toi, c'est bien pour ta bouche. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger une bonne chose, dire « ah mais c'est bien pour l'autre ». Non. Donc je crois que quand la parole de Dieu sort, c'est bien pour la personne qui l'entend, que ce soit le prédicateur et tout le monde. Voilà, maintenant, ça peut servir aussi à l'autre, mais c'est déjà bien pour moi qui l'entends. Quand on commence à penser que, ah, vraiment, aujourd'hui, ils ont bien entendu, hein, bah, ben là, forcément, on est en train de tomber dans l'indifférence. On est en train de tomber dans l'indifférence, il faut faire attention. Voilà, et il y a une autre catégorie, oui.
Par rapport à l'indifférence, en fait, le fait d'exhorter un frère ou une sœur par rapport à son comportement, compte tenu de la prédication qu'on a tous écoutée, si le frère ou la sœur était concerné, pendant l'exhortation, lui rappeler... Tu as vu ce que Dieu a parlé.
Mais c'est bien.
C'est bien, ok.
Ah oui, c'est bien. C'est bien. Il faut, c'est ça, moi je dis que c'est ça. La réalité de la prédication, c'est donnée pour les humains. Donc quand on peut rappeler ça pour aider les gens à pratiquer, c'est une bonne chose, quoi. Voilà, parce que beaucoup de fois, les gens ne font pas le lien entre ce qui est prêché et leur vie. Donc quand on peut toujours les aider à faire ce lien-là, c'est une bonne chose.
Une deuxième question. Tu peux nous donner, pour nous aider, quelques exemples pour éviter l'indifférence, ou qu'est-ce qui produit l'indifférence pour que la personne s'écarte totalement de la voie du Seigneur?
Ce qui produit l'indifférence, c'est que on commence à regarder à nous-mêmes comme individus au lieu de regarder tout le temps au Seigneur. Tu commences à regarder... Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que je saurais bien parler? Est-ce que je vais bien chanter? Donc, tout tourne maintenant autour de je. Donc, le monde commence à se concentrer sur toi c'est fini, la mort s'installe. Et même maintenant, il y a des gens qui sont comme ça, mais qui prient beaucoup, mais qui prient toujours que Dieu entre dans leur monde là. Ils n'entrent pas dans le monde de Dieu, mais c'est Dieu qui doit entrer dans leur monde. Vous allez le voir continuer à prêcher, continuer à prier, mais tout est centré sur eux. Et ça finit par, justement, comme les couper de la révélation. Puisque c'est la révélation de Dieu qui nous rafraîchit. Maintenant, quand nous ne sommes plus tournés vers lui, cette révélation-là est coupée. On commence à vivre une religion personnelle. Et c'est là que l'indifférence n'est. Donc il faut que nous vivions pour le Seigneur, comme notre frère Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut qu'on vive maintenant pour le Seigneur. Regardez à lui. Un problème se présente. Ne regarde pas à tes poches. Tout ça fait partie. Tu regardes aux poches du Seigneur. C'est des détails. Hein. Il y a des gens qui négligent ça. Donc ils se retrouvent en position. On lui propose quelque chose. Tout de suite, avec mon salaire, ce n'est pas possible. Oh. Mais c'est de l'indifférence. Dieu dit, oh, mais je suis son père ou pas? Donc il a fait de l'indifférence sur le fait que Dieu était son père. Ce sont ces choses-là où quand nous regardons qu'à nous-mêmes, pour toutes ces petites choses, nous tombons dans l'indifférence. Où on te pose un problème sur tes enfants, ta maison, ta voiture, tu réponds comme si c'était à toi. C'est de l'indifférence. Tu as oublié que tu n'es que le gestionnaire des biens que Dieu t'a donné. Donc on doit à chaque fois mettre Dieu dans la sauce. Quand on commence à oublier Dieu, ça finit par une vraie indifférence totale. On commence par Enoch qui avait levé la main depuis longtemps.
Merci. Merci, pasteur. Comment on peut se rendre compte qu'on n'est plus en communion avec le Seigneur si on vit cette forme de religiosité?
On va commencer à mourir à petit feu, mais maintenant, il y a des gens comme ça qui continuent quand même à aller dans les églises, à prier, à faire des choses, mais ils vont voir la mort dans leur vie. C'est comme quelqu'un peut nier qu'il est mort, mais il va sentir mauvais. Donc les mauvais fruits vont commencer à se manifester.
Amen.
Au fait, les mauvais fruits sont là pour que, malgré ta position, les mauvais fruits vont attester qui tu es, même si toi-même tu nies. Voilà, les mauvais fruits sont là. Il y aura des mauvais fruits. Oui.
C'est où la sagesse dans ça? Enfin, souvent, quand tu parles, l'exemple que tu as pris tout à l'heure, bon, voilà, on te propose un truc, tu dis, ça, c'est pas mon salaire, j'ai pas un assez grand salaire pour acheter ça, mais. C'est concret, c'est réel. Bien évidemment qu'on a la foi.
C'est l'indifférence.
Mais il faut dire quoi? Bon,
je veux réfléchir, je veux prier.
Mais si tu sais que tu as un salaire de temps, tu ne peux pas acheter.
Il dit, Matthieu 6, 33, cherchez le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus.
Donc, il y a quelqu'un qui te propose quelque chose, tu sais que tu n'as pas les moyens. Toi, tel quel, tu dis, bon, attends.
Je vais prier le Seigneur.
Je vais prier.
Bon, monsieur, je vais réfléchir à votre offre. Voilà. J'ai un conseiller, patron en même temps, banquier en même temps, je vais le voir. Voilà. Mais quand directement on dit « je n'ai pas les moyens », quelque part on a fait fi de Dieu. Voilà.
Moi je me dis que ce que Dieu nous donne, bon bien évidemment il y a la foi, on a peut-être 10 € dans sa poche, finalement tu sors, tu vois que c'était 50 €, bon, Dieu peut faire comme il veut, ou 100 €, je ne sais pas, mais je me dis que ce que Dieu nous a donné, c'est pour qu'on puisse gérer ça. S'il veut qu'on ait plus, il nous donnera plus pour, parce que j'ai l'impression qu'on peut le prendre dans ce sens-là, mais aussi on peut aussi le prendre à l'envers. Si Dieu te dit, bon, tu auras un salaire de 2 000 €, ben, n'essaye pas de vivre ou de vouloir des choses, quand quelqu'un vient te faire une proposition, ah, tiens, ça coûte 10 000, toi tu te dis, ben non, moi j'ai un salaire de 2 000 €, si Dieu m'a donné un salaire de 2 000 €, c'est que je ne vais pas dans ce sens-là. Est-ce que je suis vraiment obligé de dire, bon, je vais prier, c'est peut-être que Dieu ne veut pas.
On doit apprendre le contentement. Si Dieu nous a donné quelque chose, on se contente. Maintenant, nous ne devons pas refuser que Dieu nous donne des choses qui dépassent nos moyens.
Oui, mais là, c'est lui qui nous donne. C'est pas à nous de dire, bon, peut-être que Dieu... Non, je vais... Non, attendez.
On va être terre à terre. Tu fais un tour. Tu voulais acheter un manteau. Tu fais un tour. Tu vois quelque chose qui te plaît. Il a dit, ah non, moi j'avais prévu que 50, je ne bouge pas. Donc on est libre de réfléchir comme ça et rester dans la chair, dans la logique humaine, ou dire, tiens, je crois que le Saint-Esprit me pousse à acheter ça, je prends, et le Seigneur pourvoira mes besoins, et au lieu de fuir, je fais face à ça, et le Seigneur, il connaît comment il va faire, parce que tu es convaincu que c'est le Seigneur qui t'ouvre cette porte-là. Je dis bien, tu es convaincu. Mais quelqu'un d'autre aussi peut raisonner, ah, le Saint-Esprit me convainc que ça c'est un piège de l'ennemi, il veut me faire agir dans la convoitise, je n'achète pas. Mais tout doit être lié au Seigneur. On sent que bon, voilà, c'est la convoitise, je n'achète pas. Mais on peut aussi sentir que non, ça c'est la volonté de Dieu, je prends celui qui veut me bénir. Voilà.
D'accord, donc là, c'est ça qui m'intéresse là. C'est ce côté, tu veux quelque chose, donc on n'est pas dans la convoitise, on est dans le besoin. Tu pourrais le prendre, t'es limité, mais tu sais que, bon, tu pourrais, peut-être que ça va te mettre dans une situation un peu plus difficile. Tu peux quand même, mais tu penses que Dieu pourvoira...
Non, moi je veux dire par là qu'il faut marcher par l'esprit. Si on sent que c'est une porte que Dieu nous ouvre... On s'avance, Dieu s'occupera de nous. Voilà. Et on a un exemple tout simple, le loyer de l'église. Eh bien, on s'y est engagé, ça fait 11 ans, alors qu'on avait peu de moyens, et ça fait 11 ans qu'on paye toujours, et on est toujours là. Voilà, donc c'est l'exemple le plus simple. C'est-à-dire, par rapport à nos moyens, tels qu'on s'était engagé, c'était vraiment, selon l'intelligence rationnelle, ça n'allait pas. Mais on a considéré que Dieu nous a ouvert une porte pour avoir tous ces locaux. On ne va pas commencer à dire on n'a pas les moyens. On ne prend qu'une salle. Le propriétaire va louer l'autre salle à un bar ou je ne sais à qui, comme c'était le cas avant nous, avant qu'on prenne tout. Et les gens qui faisaient la loterie, ils prenaient une autre salle. Donc on va se. Ils fumaient dans les couloirs, ils faisaient des choses. Bon, voilà. Donc quand Dieu nous a ouvert la porte que le propriétaire pouvait nous louer tout, on s'est dit bon, on ne peut pas reculer devant une telle offre que beaucoup de chrétiens cherchent. Vous savez, voilà, beaucoup de chrétiens cherchent une salle. Et on est à Rouen même. Nous, Dieu nous ouvre cette porte-là, on va dire on n'a pas les moyens, on y va. Et. Tout ce qu'on risque, gros sur la terre, c'est la prison. Donc on attend seulement la prison, peut-être. Mais ça ne va pas nous tuer, la prison. C'est aussi un terrain d'évangélisation. Voilà. Donc c'est, on fonce. Donc quand on est conscient que Dieu nous ouvre une porte, on fonce. Advienne que pourra. Voilà. Donc on est prêt à ce qu'on nous coupe la tête. Mais on est sûr, on va mourir sur les champs de bataille. On ne va pas mourir en sécurité. Il y a des gens qui veulent mourir en sécurité. Nous, on préfère mourir sur les champs de bataille. Voilà. Oui.
Juste témoigner pour répondre de Père Cernelli. Et il y a quelques années, j'ai traversé un moment qui était difficile. Et puis, le Seigneur a mis quelque chose dans ma vie qui était... je savais que c'était pour moi. Donc, voilà. Alors, je vais être bref. Alors, mais il fallait de l'argent. Mais les moyens n'étaient pas présents pour répondre à cela. Alors, j'ai prié Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je sais que c'est toi qui as mis ça. Alors, aide-moi, parce que si je ne paye pas mon loyer pour faire ça, il faut que je garde au moins deux ou trois mois de loyer et je ne paye pas mon loyer pour me satisfaire de cela. Alors, et puis je continue à prier, voilà. Et puis un jour, boum, le Seigneur m'a répondu, voilà, j'ai écrit quelque chose qui me concernait, que je ne pensais même pas du tout. Et j'ai écrit, et puis j'ai eu trois fois les montants que je voulais. Donc, vraiment, donc, c'est là que j'ai juste dit, et je voulais partager avec Cernelli ce que le Seigneur fait dans nos vies aussi.
Avec nous tous. Hein.
Avec nous tous, oui, bon. Merci, voilà. Parce que Cernelli qui a posé la question.
On ne veut pas l'indifférence. Là.
Amen, voilà, c'est l'indifférence. Voilà, ça commence.
Ok.
Voilà.
D'accord. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Non. Voilà, nous clôturons avec ça. Parce que la dernière fois, j'avais la conviction de clôturer avec le pardon, mais je me suis entêté à prendre un autre sujet. Et Jonathan nous a fait clôturer encore avec le pardon. J'ai compris qu'il faut obéir. Donc là, Dieu nous parle par rapport à l'indifférence. Donc on ne va pas rajouter un sujet qui va nous faire oublier le message le plus important que Dieu voulait. C'était qu'on sorte de l'indifférence, qu'on le prenne au sérieux à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci de nous aider à sortir de l'indifférence, Seigneur, à prendre les choses normalement, comme si nous étions déjà au point. On est juste là pour t'aider, toi, Seigneur. Mais c'est toi qui es au point, Seigneur. Nous, on a besoin d'aide chaque jour. On a besoin d'être transformé chaque jour. On a besoin d'être repris chaque jour. On a besoin de manifester la foi chaque jour. On n'a pas déjà une foi, c'est fini. Non, on a besoin chaque jour de marcher par la foi, comme c'est écrit, le juste vivra par la foi. On a besoin de ne pas nous engager sans te consulter, Seigneur. On a besoin de marcher avec toi comme Enoch a marché avec toi. Il t'a tellement associé à sa vie que tu as jugé bon de l'enlever de la terre parce que il était devenu comme indigne pour la terre, Seigneur. La terre plutôt était devenue comme indigne pour Enoch, tellement Enoch marchait avec toi, Seigneur. Merci de nous aider à marcher avec toi, à t'associer à tout, à ne pas gérer notre vie selon nos capacités, selon nos forces, mais à gérer notre vie selon toi, comme c'est écrit. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Merci, Seigneur, de nous aider à te mettre en avant, avant toute chose, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège de l'église d'Éphèse, qui faisait toutes les activités qu'il fallait, qui prêchait ce qu'il fallait, qui rejetait les fausses doctrines, mais qui avait perdu l'intérêt pour toi, Seigneur, qui était tombé dans l'indifférence, qui avait perdu le premier amour, Seigneur. Nous voulons être simples et venir te célébrer, Seigneur, comme les fleurs qui ne s'embêtent pas, comme les oiseaux qui ne s'embêtent pas, qui te célèbrent, Seigneur. Béni soit ton nom à jamais pour tes révélations qui éclairent les petits que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.